disais tout à l'heure, on a des personnes atteintes de maladies chroniques, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui arrivent à URACA parce qu'elles sont orientées par les partenaires et elles sont juste demandeurs d'asile et isolées. Ça peut arriver. On a une petite partie quand même de personnes. Déjà, sur l'aspect culturel, il y a la question du parcours migratoire qui est importante, puisque les personnes qu'on reçoit, ça a beaucoup évolué. URACA existe depuis 1985. Et à l'époque, on avait des femmes qui arrivaient par le regroupement familial, des hommes qui venaient travailler en France. Aujourd'hui, les profils sont très variés. On a des femmes qui arrivent seules, des jeunes femmes qui ont fait le parcours en grande partie à pied, ont traversé les eaux pour arriver en Europe. On a d'autres personnes qui arrivent par, je dirais, les aéroports, mais avec des papiers empruntés. Donc les parcours sont différents. Pour certaines personnes, la migration va durer quelques heures, je dirais, physiquement. Mais la migration psychique, elle, va être beaucoup plus longue. Et pour d'autres, ça va être des années. Elles vont rester... Je pense à un monsieur que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Il est resté 2 ans dans les forêts au Maroc, en attendant une opportunité de traverser le détroit de Gibraltar. Donc il va y avoir une question traumatique aussi à prendre en compte dans l'accompagnement de ces personnes-là. Avec la perte des repères aussi, puisque quand on arrive ici... En France, la nourriture n'est pas la même, la langue n'est pas la même, la structure n'est pas la même. On donne des adresses. Je pense à une dame à qui on a dit « appelle 115 ». Elle pensait que c'était une personne. Donc il y a une approche aussi du monde dans lequel nous on vit qui est très particulière. Et puis on donne des adresses. Donc on vous dit... je n'ai pas regardé l'adresse ici de l'université, mais la plupart du temps, les adresses, quand on regarde bien, c'est le nom de personnes défuntes, de personnes décédées.
Par principe. Oui. Par principe. Généralement, on ne met pas de rue pour les vivants, c'est mauvais signe.
Ou parfois, on peut avoir la rue des déserts, Beaulieu. Enfin, là encore, ça peut aller. Mais on a déjà un rapport au monde qui est totalement différent. Donc la personne arrive avec la question traumatique. Elle arrive ici, il y a une perte des repères. Elle peut être hébergée dans un lieu isolé. Et petit à petit, on va lui proposer l'orientation vers URACA. À URACA, il y a cette approche culturelle dès le départ. On ne va pas accueillir un patient porteur d'une maladie chronique, un usager. Enfin, on donne tout un tas d'appellations. On va d'abord accueillir une personne et savoir qui elle est, en partant de l'identité culturelle. Et ça, c'est une approche qui est très intéressante, puisque on fait de fabuleuses découvertes. On a des chefs de clan. On a, là, il y a 2 semaines, j'ai reçu une dame de lignée royale. Mais ça, c'est pas du tout inscrit dans ses démarches administratives. Une dame qui est demandeuse d'asile et qui a été diagnostiquée VIH, puisqu'elle est passée par les prisons libyennes et elle a été contaminée là-bas. Et c'est de pouvoir petit à petit restaurer les assises culturelles qui sont essentielles. Il est impossible de pouvoir élaborer un projet de vie, de pouvoir s'ancrer ici en France lorsque l'on est complètement coupé de ses racines culturelles. On a noté justement les maladies dont on ne parle pas. Il y a la question de la nomination, puisque ici on a des diagnostics médicaux, drépanocytose. Dans certains pays, on ne dit pas comme ça. C'est pas du tout. Enfin, le nom n'est pas porteur de sens. Le VIH, on peut même dire SIDA, quand parfois on n'est pas sûr du degré de compréhension, on peut lâcher ce mot qui fait trauma à nouveau. Souvent les patients en parlent sans jamais nommer la maladie. Ils vont dire j'ai cette maladie là. Et c'est de pouvoir les accompagner en tenant compte de cet aspect-là. On va éviter l'approche frontale, qui parfois est vraiment, va bloquer, il ne va pas permettre d'accompagner le patient, de comprendre ses difficultés. Qu'est-ce qui fait qu'il va être réticent à une orientation Vous savez, en ce moment, il y a des orientations dans d'autres régions. Ça peut être bien, il y a pas mal de choses, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne refuse d'être à nouveau déracinée quand elle a réussi à poser enfin des points de repère, une association où elle est, elle a son médecin, à qui elle peut expliquer ce qui va, ce qui ne va pas. Et là, on lui propose, bien que les conditions peuvent être très sympathiques, si je puis dire, au départ en allant dans d'autres régions, là, il y a un déracinement qui peut être insupportable. Donc, petit à petit, on va pouvoir accueillir ces personnes-là. et je dirais commencer à élaborer un projet, voir un petit peu où elles en sont et comment les accompagner en fonction de leurs besoins. Parfois, ça peut être même de faire le lien avec les professionnels, puisque on peut avoir des patients qui vont, là je reviens un peu sur le côté prise en charge de la maladie, des patients qui vont dire au médecin, si le médecin demande « avez-vous compris ?», ils vont dire « oui, oui », mais en fait ils n'ont pas du tout compris. Donc c'est peut-être de voir comment aborder, quelque part perdre un peu de temps pour en gagner beaucoup derrière, y compris sur la prise des traitements. Là je reviens sur la prise des traitements avec les vulnérabilités culturelles, quand on est hébergé chez un membre de la famille, par exemple, qui n'est pas au courant de notre pathologie, ça peut être compliqué de pouvoir prendre ces traitements. Donc, ça suppose de réfléchir aux stratégies. Est-ce qu'on jette la boîte, on met les comprimés dans, je dirais, un pilulier, mais qui ne ressemble pas à un pilulier ? Pourquoi pas ? Enfin, c'est à réfléchir. L'objectif étant de protéger le secret. C'est pour ça d'ailleurs même à Uraka, tout à l'heure quand j'ai présenté, j'ai dit on reçoit des personnes atteintes de maladies chroniques, mais pas que, car parfois il y a la peur d'arriver et que tout le monde sache que vous êtes porteur d'une maladie. Donc on essaie de faire attention à ça, même s'il y a des structures où ça peut être un plus aussi, quand on sait que tout le monde a cette pathologie, ça peut ouvrir aussi d'autres portes. Moi je vous dis les choses hein, comme ça vient au fur et à mesure. Par rapport à la question justement de l'hébergement, parfois on peut recevoir des personnes qui sont, malheureusement elles sont hébergées chez une cousine éloignée par exemple, et quelqu'un a ouvert le sac et a trouvé les médicaments, a regardé sur internet et connaît la maladie. Et on a comme ça des personnes qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain, qui ne savent pas où aller, n'ont pas de point de repère, connaissent pas du tout le système de prise en charge ici. Et vont par exemple attendre sur le métro, vont rester là, ou sur un banc dans la rue. Et malheureusement, surtout pour les femmes, la vulnérabilité est encore plus importante, puisque certaines vont se voir proposer un hébergement sans savoir au départ ce qui peut se passer, et certaines peuvent être victimes de violences sexuelles. Parfois elles se retrouvent contraintes, acceptent malgré elles, parce qu'elles ne savent absolument pas où aller. Et là aussi, l'aspect culturel peut être mortifère, dans le sens où c'est quelqu'un de la communauté qui leur proposait un hébergement. Puisque au pays, il y a une entraide, une solidarité, où on peut accueillir quelqu'un pendant des semaines, des mois, comme un membre de la famille, même si on ne fait pas partie du même groupe. Et ici, en France, c'est bien différent. Et ça, elles l'apprennent petit à petit. Il y a aussi, concernant l'hébergement, des personnes qui vont se retrouver en difficulté. Et là, je pense par exemple au 115, où on peut être hébergé 2 jours dans un hôtel, et ensuite on va dans un autre, avec une course contre la montre monumentale. Parce qu'il faut se dépêcher, on a les bagages. Si en plus on a les enfants, ça complique encore plus. Et vous savez que maintenant aussi sur les transports, ça devrait changer, mais ce n'est pas encore le cas. Il n'y a plus la solidarité pour le transport. C'est-à-dire que si on a autant les personnes qui sont dans une demande d'asile en cours, ils peuvent avoir une réduction pour le transport. Celles qui n'ont pas du tout qui ont juste l'aide médicale État, elles n'ont plus cette solidarité. Donc ça complique aussi la prise de risque de se déplacer, d'avoir une amende, et même dans l'accompagnement. Moi, dans mes suivis, quand il y a eu ce changement administratif, j'ai beaucoup de suivis qui se sont arrêtés parce que les personnes étaient trop loin, et alors c'était important d'avoir un suivi psychologique, mais la prise de risque était beaucoup trop importante, donc ça s'est arrêté malheureusement. Je regarde rapidement, par rapport à la maladie aussi, je parlais des nombreux traumas, il y a le diagnostic d'une maladie incurable, donc, et là ça remet en question tout, même le projet migratoire. Certaines personnes viennent ici avec un projet d'améliorer leurs conditions de vie, aider la famille, et la maladie arrive et arrête tout. Pour certaines personnes, c'est une forme d'impossibilité de retourner au pays. Même si un jour ils y retourneront, ce sera que pour des vacances, mais y retourner, c'est quasiment impossible. Par exemple, pour le VIH, dans certaines régions, l'accès aux soins est encore compliqué, beaucoup trop risqué. Car si on apprend là-bas aussi, c'est l'exclusion, et là c'est une forme de mort sociale, si vous voulez, et certains disent même plutôt mourir que la famille apprenne la maladie. pour les autres aussi, je pense aux patients diabétiques, c'est de pouvoir vivre avec une maladie chronique sans pouvoir être régularisé, parce que c'est compliqué même pour le... Moi, j'ai pas vu encore de personnes régularisées pour le diabète. Et en plus, c'est de prendre en charge sa pathologie. Comment on fait quand on contrôle pas l'alimentation, on se débrouille, on n'a pas de revenus, on n'a pas de papier. C'est quasiment impossible de pouvoir gérer au quotidien sa pathologie. Petit point que j'avais oublié de rajouter sur URACA, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on n'est pas sectorisé. Donc ça permet d'accompagner les patients, quel que soit le département où ils se trouvent. Parce que certains, ils vont être dans le 78, et à un moment donné, ils vont basculer dans le 93, et puis dans le 91, etc. Ça permet de garder le lien avec le patient et de poursuivre l'accompagnement. C'est-à-dire que, je donne un exemple, si on voit un patient à l'hôpital dans le 91 et qui va être transféré à Paris, par exemple, on va pouvoir aussi continuer l'accompagnement. Donc ça peut être aussi intéressant d'avoir ce point de repère. Toujours sur les vulnérabilités, pour les femmes, parfois on a des femmes qui vont avoir des grossesses non désirées. Et donc là, c'est très compliqué parce que une grossesse non désirée, parce que c'est suite à une agression sexuelle, par exemple. Soit sur le parcours migratoire et elles découvrent la grossesse ici, soit c'est une fois qu'elles sont arrivées ici, c'est l'impossibilité de faire reconnaître l'enfant par la famille. Et certaines vont même aller dans des stratégies de survie en faisant reconnaître la grossesse par quelqu'un qui a la nationalité française, même si ça n'est pas le père biologique. Donc ça pose aussi la question de la place de l'enfant, comment il va être investi, comment il est pensé aussi cet enfant. Cette impossibilité aussi à s'appuyer sur la famille au pays, elle peut être de deux ordres. Parfois on est dans l'obligation d'aider financièrement la famille. Donc on ne peut pas leur dire qu'on a des problèmes, que c'est difficile la vie ici. Et donc on va s'auto-exclure quelque part de ce soutien familial. Et parfois c'est impossible aussi parce qu'il y a une rupture tout simplement. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes qui quittent le pays pour fuir un mariage forcé. Ici, on dit mariage forcé, là-bas, on va parler de mariage arrangé. Où l'oncle paternel, par exemple, va donner en mariage sa nièce à un monsieur qui a déjà trois épouses et qui a plus de 30 ans, et qui est l'aîné de plus de 30 ans de cette jeune dame. Où là, culturellement aussi, c'est presque un non-sens aussi. Et donc, des femmes qui vont fuir et se couper, je dirais, de... leur famille d'origine. C'est pour ça qu'à URACA, on va essayer d'aller sur la porte d'entrée culture, essayer de resituer un petit peu qui est la personne qu'on reçoit, quelle est son identité culturelle, quelles sont ses forces aussi. Puisque quand on est aussi dans le cadre migratoire, si on ne s'appuie pas sur ses représentations, on va rester plutôt avec des choses mortifères et figées. Ça peut même compromettre notre capacité à nous engager dans des démarches administratives, à combattre quelque part les difficultés du quotidien, à être observant. Donc on va aller sur cette porte culturelle, mais de manière indirecte, avec la restauration des liens communautaires, les femmes, l'accueil, créer des liens avec d'autres personnes qui ont vécu des choses similaires. Je pense que j'ai dû oublier des choses. Bon,
moi, je retiens un certain nombre de points là, des deux interventions. Oui. Le fait qu'on est en train de désertifier la première ligne, c'est-à-dire de plus en plus, il n'y a plus d'accueil en première ligne, parce qu'on dit aux gens qu'il faut se recentrer sur le cœur de métier. Et du coup, c'est des acteurs comme Myriam qui doivent faire le travail social, alors que, bon, c'est normalement pas du tout, la vocation. Et ça, c'est un phénomène qui s'accentue depuis une vingtaine d'années de façon considérable, et pas que pour les migrants. Hein, toutes les populations en situation de précarité deviennent, on leur demande maintenant de se digitaliser, ce qui est une aberration, absolument. Et c'est d'autant plus une aberration, le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est ce que vous venez de soulever, c'est qu'il faut d'abord renarcissiser ce public si on veut pouvoir l'aider. Quelles que soient les démarches, quelle que soit l'éducation pour la santé ou l'éducation thérapeutique du patient, d'abord, il faut qu'il s'aime bien. Parce que quelqu'un qui s'aime bien se mettra moins en danger, se sentira plus concerné. Et donc, tout le travail, c'est cette renarcissisation. Dans le cadre de ce DU, je n'ai pas le temps de vous faire l'éducation pour la santé que je fais avec Migration Santé. Mais bon, j'ai pas mal travaillé cette question-là. Et Il ne faut jamais vouloir faire passer un message. Ce n'est pas ça la question d'éducation pour la santé. Il faut d'abord renarcissiser. Je vais me soigner parce que je le vaux bien. C'est L'Oréal qui a trouvé le thème. Et c'est tout le propos justement de l'éducation pour la santé. Donc il ne faut pas avoir en tête, ah ben il faut qu'il mange 5 fruits et légumes par... Non, 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 non. D'abord qu'il s'aime bien et ensuite. Le troisième point aussi que je voudrais soulever, c'est les différences de représentation. Donc on va en parler, puis vous avez cet après-midi aussi une anthropologue qui va vous parler, mais je crois que c'est très important de savoir par exemple le concept de chronicité. Je fais une action d'éducation thérapeutique du patient diabétique au foyer Concorde à Vitry, traduit en bambara et soninké, parce que bon, la question linguistique, justement, c'est un vecteur d'inégalité sociale de santé, puisque dans les hôpitaux, on diagnostique le diabète, mais on exclut les non-francophones des processus d'éducation thérapeutique. Donc on se retrouve avec des patients retraités, pour les raisons que Myriam, qui n'ont pas connaissance de leur traitement, etc., et qui considèrent que puisque la glycémie est bonne, équilibrée, ben, je suis guéri. Parce que la notion de chronicité, ça doit se travailler. Et ça, c'est une dimension qui est très très importante. Et le dernier point, c'est le système de contraction de dette. C'est-à-dire comment est-ce que les gens contractent des dettes les uns par rapport aux autres. Et on le verra dans la deuxième partie de cette matinée quand on parlera d'interprétariat. Qu'il faut faire très attention quand on mobilise des interprètes informels, des voisins, des voisines, etc., que ça n'engendre pas une dette que la personne sera contrainte de rembourser à notre insu. À notre insu. La parole est à la salle.